La petite Amy McNeil, âgée de 13 ans, a toute la vie devant elle. Mais son avenir est compromis le jour où elle est enlevée sur le chemin de l'école. Terrifiés, ses parents appellent le FBI. Ils espèrent ainsi que les agents et la police, grâce à leur expérience, découvriront l'identité des ravisseurs de leur enfant avant que ceux-ci ne lui ôtent la vie. La petite ville d'Alvarado est située dans le comté rural de Johnson, à environ 30 km au sud de Fort Worth, au Texas. Quelques gens fortunés ont trouvé à Alvarado un lieu sécuritaire, loin des centres urbains de l'État. Les McNeil étaient du nombre. C'était une des familles les plus aisées de la région, en partie grâce à l'argent que McNeil avait gagné en vendant un des premiers modèles de calculatrice portable. À 7h15, le vendredi 11 janvier 1985, la famille commence la journée comme d'habitude par le petit déjeuner.
Amy.
Ensuite, leur adolescent devait se rendre à l'école avec sa sœur Amy, 13 ans. En route, le frère d'Amy s'arrêta pour prendre leur cousin. Celui-ci vivait dans une autre maison sur la propriété des McNeil. Vers 7h45, il se mit enfin en route pour l'école. C'est alors qu'une berline surgit de derrière un camion abandonné, se mit en travers de la route pour forcer la Jeep des adolescents à s'arrêter. Un homme armé sauta de la voiture et s'approcha de la Jeep. Il força Amy à monter à bord de la berline. L'homme aux cheveux blonds avertit ensuite son frère de ne rien dire à la police. Il ajouta qu'il n'allait pas tarder à appeler ses parents pour leur faire connaître ses exigences. Instinctivement, l'adolescent voulut descendre de son véhicule pour aider sa jeune sœur. Mais les ravisseurs menacèrent de le tuer, lui et Amy, s'il tentait de les suivre. Ils prirent la fuite si rapidement que les deux adolescents n'eurent pas le temps de lire le numéro de plaque d'immatriculation de la berline. En quelques secondes à peine, la fillette avait disparu. Les deux adolescents firent demi-tour pour rentrer à la maison au plus vite. Ils racontèrent les événements aux McNeil et leur répétèrent les menaces des ravisseurs s'ils en venaient à demander l'aide de la police. Malgré cette mise en garde, McNeil appela immédiatement le bureau du FBI de Fort Worth.
Give me the FBI.
L'agent spécial Clint Brown, aujourd'hui retraité après 30 ans de loyaux services, savait que chaque minute comptait.
J'ai travaillé sur de nombreux cas d'enlèvement et pas une fois le ravisseur ne s'en est tiré. Notre but premier dans ce genre d'affaires, c'est de s'assurer que la victime rentre chez elle, saine et sauve. Dans tout ce que nous entreprenons, nous prenons bien garde de faire quoi que ce soit qui mettrait en danger la personne kidnappée.
Le FBI commença par installer une enregistreuse sur la ligne téléphonique des McNeil. Les agents espéraient ainsi identifier le ravisseur par sa voix ou découvrir d'où celui-ci appelait. Le FBI avisa également la société de télécommunications qui desservait la localité de se préparer à retracer des appels. Les agents indiquèrent au père comment se comporter lors de l'appel des ravisseurs. Il devrait insister pour obtenir la preuve que sa fillette était encore en vie. Le fait que les ravisseurs n'aient pas caché leur visage préoccupait le shérif Eddie Boggs de Johnson County qui appela la police d'État quelques instants après être arrivé.
Les ravisseurs n'avaient aucunement cherché à cacher leur identité. Ils avaient le visage découvert, aucun masque, aucun déguisement, rien du tout. Cela m'indiquait qu'ils s'organiseraient pour que la victime ne puisse jamais les décrire. Autrement dit, qu'ils allaient sans doute la tuer.
Vers 10 heures, soit plus de 2 heures après l'enlèvement de la petite Amy, le téléphone sonna enfin. C'était l'un des ravisseurs. L'homme exigea une rançon de $100,000, la moitié en billets de $100 et l'autre moitié en petites coupures. Les numéros de série des billets de banque ne devaient pas se suivre. Comme les agents le lui avaient demandé, le père d'Amy les supplia de le laisser parler à sa fille, mais le ravisseur refusa. Il déclara qu'Amy était toujours en vie et qu'il pourrait lui parler quand on le rappellerait pour lui dire où laisser l'argent. Il ajouta que s'il appelait le FBI, il ne verrait plus jamais sa fille. L'appel dura moins d'une minute, soit pas assez longtemps pour qu'on puisse le retracer, compte tenu de la technologie de 1985. Les agents écoutèrent les bruits de fond de l'enregistrement en espérant découvrir d'où provenait l'appel. Selon eux, celui-ci provenait vraisemblablement d'une cabine téléphonique, car on pouvait entendre le bruit du vent et de voitures. On n'entendait toutefois rien de très précis et personne dans la famille ne put reconnaître la voix du ravisseur. Même si le père d'Amy était fortuné, il ne disposait pas de $100,000 en argent liquide parce que tout son argent était sous forme d'investissement. Il appela ses associés et leur demanda d'apporter par avion tout argent qu'il pourrait retirer pour lui. Pour protéger la fillette, les médias acceptèrent de taire la nouvelle tant que le shérif ne communiquerait pas avec eux. Peu de temps avant 13 heures, le téléphone sonna de nouveau.
Hello?
Yeah, I'm the guy who's got your daughter.
C'était l'homme qui avait appelé plus tôt. Sur une autre ligne téléphonique, un agent appela le chef de la sécurité de la société de téléphone pour lui demander de tenter de trouver d'où provenait l'appel. Celui-ci se mit aussitôt au travail. McNeil suppliait le ravisseur de le laisser entendre la voix de sa fille. Cette fois, il accepta. On lui avait bandé les yeux pour qu'elle ne puisse pas décrire l'endroit où elle se trouvait. McNeil pouvait entendre son enfant pleurer. Malgré ses craintes, il rassura Amy en lui disant que tout irait bien et qu'elle serait bientôt à la maison. C'est alors que le ravisseur saisit le combiné. Il déclara qu'il n'avait pas encore décidé de l'endroit où le père devait laisser l'argent de la rançon. Il promit de rappeler plus tard.
Hello?
Le silence se fit alors dans la pièce, comme se le rappelle le policier Bill Gunn, aujourd'hui à la retraite.
Ça nous brisait le cœur d'écouter cette conversation. La fillette était terrifiée, et bien sûr, son père l'était tout autant. La conversation a été très brève. Monsieur McNeil a encouragé Amy à être fière et à se rappeler qui elle était. Et la conversation s'est terminée comme ça.
Les policiers espéraient avoir retracé l'appel. Le chef de la sécurité de la société de téléphone signala que l'appel provenait d'une zone à l'extérieur de son territoire et qu'il lui était impossible de poursuivre les recherches compte tenu que l'appel avait été interrompu. Il savait toutefois que la communication provenait de la ville de Kennedale, soit à quelques 40 km au nord de la propriété des McNeil. Amy était toujours au Texas, près de Fort Worth. Les policiers effectuèrent des fouilles sur un rayon de 50 km, d'Alvarado à Kennedale, à la recherche de la voiture des ravisseurs. Ils alertèrent également les autres policiers de la région et leur donnèrent la description de la berline à quatre portes. Mais sans le numéro de la plaque d'immatriculation, les chances de trouver cette voiture dans cette région rurale étaient minces. Près de 6 heures après l'enlèvement d'Amy McNeil, les amis de son père venant du Texas et de l'Arkansas arrivèrent à Alvarado, emportant avec eux plusieurs dizaines de milliers de dollars en argent liquide. Les policiers de l'État les escortèrent de l'aéroport jusqu'à une banque où les sommes d'argent devaient être préparées en vue de la remise aux ravisseurs. Des gants de latex aux mains, les policiers mirent les 100 000 dollars en liasses après avoir noté tous les numéros de série. La moitié des billets était en coupure de 100 dollars, comme les ravisseurs l'avaient demandé. L'autre moitié, soit 50 000 dollars, était constituée de plus petites coupures. Le sergent John Dandy de la police du Texas, aujourd'hui à la retraite, participait à cette opération.
Réunir une telle somme en aussi peu de temps n'a pas été une mince affaire. Mais quand on a eu cet argent, les policiers ont trouvé des sacs dans lesquels ils ont mis les billets. Il n'y avait aucune empreinte digitale sur ces sacs de plastique. On a également photocopié tous les billets pour en conserver les numéros de série. On a tout mis ça ensemble. Il ne nous reste plus ensuite qu'à s'asseoir et à attendre les ordres.
À la fin de l'après-midi, des policiers avaient repéré une voiture qui correspondait à la description de celle des ravisseurs. Elle était garée à 30 km de la propriété des McNeil. En vérifiant le numéro de la plaque d'immatriculation, les policiers constatèrent que la voiture avait été volée à Mesquite la veille, soit à 80 km à l'est d'Alvarado. À l'intérieur, ils ne trouvèrent aucune trace d'Amy et de ses ravisseurs. Ils firent remorquer le véhicule à la fourrière et continuèrent à ratisser le secteur à la recherche de témoins qui auraient vu le conducteur. À 23h30, soit 16 heures après l'enlèvement, la famille d'Amy avait reçu 3 autres appels. Mais jamais on ne leur avait dit où laisser l'argent de la rançon. On espérait que ce dernier appel mènerait à la libération d'Amy. C'était encore le même homme au bout du fil. À nouveau, la société de télécommunications tenta de retracer l'appel. Le père d'Amy informa le ravisseur qu'il avait en main les 100 000 dollars demandés. Son interlocuteur déclara alors qu'il était trop tard, car l'endroit où la rançon devait être remise se trouvait à 300 km d'Alvarado. Quand McNeil arriverait sur les lieux, il ferait jour et le ravisseur ne voulait pas courir le risque d'être vu. Le père le supplia de faire la transaction le soir même. L'homme refusa. Il déclara qu'il rappellerait le lendemain pour lui faire une autre proposition. Les agents attendirent des nouvelles de la société de téléphone. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps de trouver l'endroit d'où le ravisseur appelait. Les enquêteurs ne pouvaient qu'espérer que la petite Amy survive à la nuit et qu'elle verrait bien vite ses parents. À 17h, le samedi 12 janvier 1985, une journée et demie s'était écoulée depuis l'enlèvement d'Amy McNeil alors qu'elle se rendait à son école à Alvarado, au Texas. L'un de ses ravisseurs avait appelé sa famille à 7 reprises. Il avait exigé une rançon de 100 000 dollars en billets de banque dont les numéros de série n'étaient pas en séquence, mais il n'avait pas encore dit à quel endroit il voulait que les McNeil laissent l'argent. Malgré les menaces des ravisseurs, le père d'Amy s'était empressé d'appeler le FBI. Plusieurs agents, une douzaine de policiers de l'État et de policiers du bureau de Johnson County s'étaient joints à lui dans ses recherches. Les ravisseurs avaient promis d'appeler à 17h pour dire à quel endroit se ferait la transaction et pour confirmer qu'Amy était toujours saine et sauve. Malgré la pénible attente, l'agent spécial Clint Brown et son équipe ne perdirent pas de temps à se préparer.
On a mis un plan au point dès qu'on a pu. Monsieur McNeil devait apporter l'argent en personne à bord de sa voiture qu'il conduirait lui-même, car on voulait que les gens puissent le voir. Il possédait une limousine. Les ravisseurs présumeraient qu'il y était seul, mais deux agents du FBI devaient s'y cacher.
Les agents dissimuleraient une enregistreuse miniature sur McNeil afin qu'il puisse enregistrer les conversations qu'il aurait peut-être avec les ravisseurs si ceux-ci s'approchaient de la limousine. De plus, il y aurait des micros dans la voiture et les deux agents du FBI seraient lourdement armés. À 17h10, le ravisseur appela de nouveau. Il dit à McNeil de se rendre seul dans sa limousine sur l'autoroute 30 à l'est de Dallas, soit à une distance de 65 km. Il devait y prendre la sortie 51. Il y trouverait une station-service. McNeil devait arriver sur place à 19h. Il recevrait d'autres instructions à partir d'un téléphone public à côté d'un distributeur automatique. McNeil put parler brièvement à Amy avant que son ravisseur ne coupe la communication. Elle était terrifiée, mais on ne lui avait fait aucun mal. L'appel avait été trop bref pour être retracé. Comme prévu, un contingent d'agents du FBI, de policiers de l'État et de Johnson County suivrait la voiture de McNeil à distance. Les policiers ne manqueraient de rien, comme nous le raconte Bill Gunn, retraité de la police d'État.
On a utilisé toutes les ressources disponibles. On avait des dispositifs de pistage et des avions. On a installé un dispositif de pistage sur la voiture de McNeil. Ainsi, si on perdait le contact, les deux avions pourraient le retrouver.
Le père d'Amy promit à sa femme de ne pas revenir à la maison sans leur enfant. Il portait un gilet pare-balles et on lui avait prêté une arme à feu au cas où les ravisseurs s'en prendraient à lui. Quant aux deux agents qui l'accompagnaient, ils étaient armés de fusils de chasse et de pistolets semi-automatiques. Ceux-ci vérifièrent leur matériel radio pour s'assurer que l'équipe pouvait les entendre. L'agent spécial Rod Kickleiter du FBI, aujourd'hui à la retraite, était l'un des agents dans la limousine. Il donna ses directives au père.
Je me souviens qu'une des choses qu'on lui a dites, c'était de ne pas se laisser prendre en otage. On en a parlé assez longuement. Il devait donner l'argent, puis nous laisser nous occuper des arrestations. Il ne devait en aucun cas s'impliquer dans l'affaire.
McNeil reçut la permission de partir pour se rendre à la station-service à 65 km à l'est de Dallas. Quand il eut parcouru 1,5 km, l'agent ordonna aux autres membres de l'équipe de partir à leur tour. Comme le ravisseur avait donné un itinéraire précis pour se rendre à la station-service, l'ex-policier John Dandy et les autres craignaient que les ravisseurs ne surveillent la limousine en route.
On ignorait totalement où ils se trouvaient, qui ils étaient. On ignorait tout des ravisseurs. Pour éviter que ceux-ci n'aient des soupçons, on devait garder une bonne distance entre nous et la voiture.
Quand ils sortirent du comté, les policiers rappelèrent les autorités locales. Ils leur demandèrent de ne pas arrêter leur voiture fantôme et fournir les numéros de leur plaque d'immatriculation. De nombreuses unités de patrouille étaient déjà parties à la station-service pour la surveiller. La plupart d'entre elles se tenaient à distance, mais une équipe surveillait le téléphone public. On était prêt à passer à l'action si les ravisseurs se montraient. Les agents virent la limousine emprunter la sortie 51 de l'autoroute. Le téléphone se mit à sonner à 19h précise quand le père d'Amy arriva. C'était le 8e appel qu'il recevait des ravisseurs de sa fille depuis les dernières 34 heures.
Il fut déçu par ce qu'il entendit. Le ravisseur lui demandait d'emprunter l'autoroute 20 Est en direction de Tyler, soit à plus de 150 km de Dallas. À la sortie 69, il trouverait une autre station-service où il recevrait un appel à 21h20 sur le téléphone public à l'extérieur. Pour l'agent spécial Clinton Brown, il était difficile de savoir ce que les ravisseurs d'Amy comptaient faire.
On pouvait voir que les ravisseurs étaient mal organisés. Ils semblaient confus. Ils modifiaient sans cesse leurs plans. Ils ne savaient pas où l'argent devait être laissé. C'est pour cela que rien ne progressait. Ils ébauchaient leurs plans au fur et à mesure. Ils ne semblaient pas avoir beaucoup réfléchi à toute l'affaire.
À la station-service de Tyler, le père d'Amy apprit qu'il devait se rendre à une autre station-service à Longview, soit à 65 km plus à l'est, pour 23 heures. De là, il apprit qu'il devrait se rendre à plus de 100 km au nord, à une quatrième station-service à Mount Pleasant. À minuit, il recevrait un autre appel du téléphone public qui se trouvait à l'extérieur. L'équipe avait maintenant parcouru près de 300 km et roulé pendant plus de 5h30. Personne n'avait prévu que cela serait aussi long. Les avions avaient dû rentrer faire le plein à Dallas. Malgré leur frustration, les membres de l'équipe étaient décidés à ne pas baisser les bras.
On n'avait pas la moindre idée de ce qu'ils voudraient ensuite. On avait traversé une grande partie du Texas et l'on ignorait quand cela se terminerait, mais on savait qu'on serait là jusqu'à la fin.
Mais la situation empira. À mi-chemin de la station-service de Mount Pleasant, la limousine cessa de fonctionner. Après avoir roulé à une vitesse de 160 km à l'heure pendant une période de temps prolongée, le moteur commençait à avoir dératé. L'agent Kickleiter craignait que ces problèmes ne compromettent leur chance de retrouver la petite Amy.
On commençait à être tendus et inquiets de ne pas pouvoir arriver au point de rendez-vous comme prévu. On craignait de ne pas pouvoir sauver Amy.
À plusieurs dizaines de kilomètres de là, à la station-service de Mount Pleasant, deux tireurs d'élite de la police d'État avaient été dépêchés sur les lieux pour surveiller le téléphone. À minuit, l'appareil se mit à sonner. McNeil était la seule personne qui pouvait décrocher le combiné, mais il n'était pas encore arrivé. À minuit, le 13 janvier 1985, un peu avant Mount Pleasant au Texas, deux agents du FBI et le père d'une fillette de 13 ans qui avait été enlevée tentaient désespérément de réparer le moteur d'une limousine. De fait, cette voiture était celle que s'attendaient à voir arriver les ravisseurs de la fille de McNeil à la station-service à minuit. Pendant que McNeil tentait de faire redémarrer sa voiture, deux tireurs d'élite de la police d'État qui surveillaient la station-service entendirent le téléphone public sonner. Il ne pouvait rien faire, car seul McNeil pouvait y répondre. Celui-ci avait manqué l'appel où l'on devait lui dire où aller remettre la rançon de 100 000 $ en échange de sa fille. Roulant sur les routes isolées autour de la station-service de Mount Pleasant, l'équipe apprit que McNeil avait enfin trouvé ce qui ne fonctionnait pas, comme nous le raconte l'agent spécial Clint Brown.
La voiture que conduisait M. McNeil a commencé à avoir des problèmes électriques. Apparemment, l'alternateur ne chargeait pas la batterie. Plus il roulait et plus l'éclairage des phares faiblissait. Il a également eu des ennuis avec le système électrique de sa voiture.
Les dispositifs pour les communications et le pistage que l'on avait installés dans l'auto avaient drainé toute l'énergie de la batterie au cours des 7 dernières heures. En débranchant certains appareils, on obtint assez d'électricité pour faire redémarrer le moteur. Même si les phares étaient inopérants, la voiture avançait toujours. McNeil et les deux agents poursuivirent la route malgré tout. Un avion leur fournissait de l'éclairage. Les autres agents du FBI, de même que les policiers de l'État et de Johnson County, s'étaient donné rendez-vous à une autre station-service à proximité de celle où devaient rappeler les ravisseurs. Ils discutèrent des opérations à faire maintenant que McNeil avait manqué l'appel de minuit et qu'il ne pouvait d'aucune façon appeler les ravisseurs. N'ayant guère le choix, les enquêteurs envoyèrent la limousine à la station de Mount Pleasant en se disant que les ravisseurs rappelleraient sans doute.
On comptait sur le fait qu'ils voulaient toucher la rançon et que, par conséquent, ils allaient se rendre à la station-service ou appelleraient de nouveau. On leur avait dit qu'on avait cet argent et ils savaient qu'on voulait avoir Amy en échange de cette somme. On a donc pensé qu'ils s'en tiendraient, malgré tout, au plan initial.
Vers 1h du matin, McNeil et les deux agents du FBI arrivèrent enfin à la station-service de Mount Pleasant avec la limousine. Près de 8 heures s'étaient écoulées et ils avaient parcouru 320 km depuis leur départ d'Alvarado lorsque le moteur rendit complètement l'âme. Le véhicule nécessitait des réparations importantes. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre en espérant que les ravis se rappellent.
Comme on avait été forcé de rouler très lentement à cause de la limousine, on était arrivé en retard d'une heure au point de rendez-vous. Nous étions inquiets de la situation, mais nous avons décidé, malgré tout, de prendre notre mal en patience.
Les policiers de l'État surveillaient l'endroit caché dans le champ face à la station-service. On ignorait toujours le sort de la petite Amy McNeil. Puis, vers 1h15, le téléphone se mit à sonner. Comme les enquêteurs l'avaient soupçonné, c'était un des ravisseurs. Il avait hâte de toucher sa rançon. Il déclara qu'Amy était toujours en vie, mais il refusa de la laisser parler au téléphone. Pis encore, Bill Gunn et son équipe de policiers du Texas apprirent que les ravisseurs avaient vraisemblablement remarqué la forte présence policière sur les routes isolées.
Il s'est mis à accuser McNeil d'avoir avisé la police et il était fort mécontent. Il a finalement dit au père d'apporter l'argent à un motel de Mount Pleasant et c'est alors que McNeil lui a dit que sa voiture ne fonctionnait plus, que le moteur était fini. Le ravisseur a fini par dire qu'il viendrait chercher l'argent, mais qu'ils étaient bien armés et qu'ils espéraient ne pas y voir de policiers.
Malgré ses craintes de ce que les ravisseurs pouvaient avoir fait à sa fille, McNeil était toujours bien décidé à aller de l'avant. Il saisit le sac contenant la rançon et attendit à l'extérieur afin que les ravisseurs puissent le voir quand ils arriveraient. Les agents cachés dans la limousine se préparaient à un affrontement armé. L'agent Kickleiter était pleinement conscient qu'une simple erreur pouvait coûter une vie.
Lors d'un enlèvement, c'est toujours au moment où l'on remet l'argent de la rançon que la situation est la plus risquée. Dans ces circonstances, on ne veut pas qu'il y ait de blessés, ni que les ravisseurs prennent de nouveaux otages et qu'il y ait un autre enlèvement.
C'était une nuit froide de janvier. Les policiers restaient en alerte, prêts à l'embuscade. Sur les routes autour de la station-service, les enquêteurs ne virent aucune voiture s'approcher. À 3 heures du matin, soit 2 heures après le dernier appel des ravisseurs, ceux-ci ne semblaient pas vouloir venir. Les policiers de l'État, ceux de Johnson County et les agents du FBI devaient revoir leur plan.
On en a déduit qu'ils ne viendraient pas. On a donc interrompu l'opération de surveillance. On s'est dit qu'on reprendrait tout le lendemain, dimanche.
les agents de la limousine apprirent que les opérations étaient interrompues jusqu'au lever du soleil. McNeil insista pour qu'il reste. Mais les enquêteurs le convainquirent qu'il ne pouvait rien faire de plus pour l'heure.
Monsieur McNeil était furieux de voir qu'une autre nuit allait finir sans qu'il ait pu revoir sa fille. Il avait fait tout ce qu'on lui avait demandé. Il était donc extrêmement déçu.
Une voiture vint chercher McNeil et les agents. Ils se rendirent à l'autre station-service qui était à proximité, là où les autres policiers s'étaient réunis. Les deux tireurs d'élite qui s'étaient cachés dans le champ 3 heures plus tôt marchèrent jusqu'à la route où le shérif devait venir les chercher. Au moment où ils s'approchaient, une voiture passa près d'eux. Un groupe d'hommes et une fillette étaient à bord. La voiture se dirigeait vers l'autoroute. Ils alertèrent toutes les unités de patrouille du secteur. Le shérif de Johnson County, qui était en route pour aller chercher les tireurs d'élite, entendit l'appel et aperçut la voiture suspecte sur l'autoroute. Il tenta de la poursuivre, mais la berline n'eut aucun mal à distancer la camionnette que conduisait le shérif Eddie Boggs.
Ma camionnette allait très lentement et ils m'ont semé aisément. Je ne pouvais absolument pas les suivre parce qu'ils roulaient à 160 km à l'heure. C'était incroyable.
Malgré ses tentatives, le shérif perdit la voiture de vue. Il retourna au poste de commandement temporaire pour fournir un rapport détaillé de ce qui venait de se produire. Amy courait maintenant un plus grand danger encore, car les ravisseurs savaient maintenant que la police participait à l'opération. On reçut alors un appel de l'avion qui survolait la région. Le pilote avait repéré le véhicule. Les enquêteurs sur la route se mirent à sa poursuite. Le policier Bill Gunn se rappelle que les suspects roulaient sur l'autoroute 30 en direction de l'ouest.
À ce moment-là, nous étions tous au courant de ce qui se passait et nous avions pris le véhicule en filature. On a continué à rouler à haute vitesse sur l'autoroute 30 en direction de Dallas et d'un autre village dans un comté voisin.
10 minutes plus tard, les policiers de l'État, les policiers des comtés et les agents du FBI s'alignèrent derrière l'auto des suspects qui refusaient de ralentir. Alors qu'un policier de l'État s'apprêtait à les doubler, on lui tira dessus. Sa voiture fut criblée de balles, de fusils de chasse et de pistolets. Il se préparait à riposter quand il aperçut deux jeunes filles à l'arrière. L'une d'elles était la jeune Amy McNeil, que l'un des ravisseurs poussait contre la lunette arrière.
Les ravisseurs ont commencé à faire feu par les fenêtres latérales à l'arrière de la Buick. Ils poussaient Amy contre la lunette arrière afin qu'on puisse la voir. Évidemment, il nous était impossible de riposter.
À cause de travaux de construction, il ne restait plus qu'une seule voie praticable, mais les suspects ne ralentirent pas. Des projectiles transpercèrent la calandre de la voiture de tête des policiers et percèrent le carburateur, ce qui obligea l'agent à s'arrêter. La poursuite se continua à haute vitesse à travers 3 comtés, jusqu'à ce que les suspects prennent la sortie de la petite ville de Saltillo. Puis, contre toute attente, vers 4 heures du matin, ils s'arrêtèrent devant une maison et certains d'entre eux prirent la fuite à pied. Ils ouvrirent le feu sur les enquêteurs à leur poursuite. 2 d'entre eux se cachèrent derrière une camionnette garée dans l'allée pendant qu'un des ravisseurs disparaissait derrière la maison. Aucun des policiers sur les lieux ne portait de gilet pare-balles.
Quand je suis descendu de voiture, j'ai vu cet homme debout à l'avant de la fourgonnette. C'était un dimanche matin, il était 4 heures et il n'y avait pas de lune, si je me rappelle bien. Et chaque fois qu'il faisait feu avec sa carabine, il y avait des éclats de lumière tout autour.
Les policiers se protégèrent derrière leur voiture et coincèrent les ravisseurs. La voiture abandonnée des suspects était dans la ligne de tir. Amy en était prisonnière. Un des ravisseurs tenta d'entrer dans la maison où vivait une dame âgée. Celle-ci tentait de se protéger, ignorant tout du drame qui se jouait à seulement quelques mètres de chez elle. La fusillade se poursuivait. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient sauver Amy McNeil avant qu'il ne soit trop tard. À 4 heures du matin, le 13 janvier 1985, les agents du FBI et les policiers de l'État du Texas et de Johnson County tiraient sur les ravisseurs de la petite Amy McNeil. Après avoir été prise en otage depuis presque deux jours, elle était prisonnière dans la voiture de ses ravisseurs en compagnie d'une jeune femme devant une maison de Saltillo au Texas. Le sergent John Dandy fut l'un de ceux qui bravèrent les rafales de projectiles.
Je pouvais voir l'un d'entre eux derrière la roue avant de la voiture, et c'était ma principale cible. Je ne pouvais aller nulle part ailleurs. La seule chose que je devais faire, c'était de les empêcher de tirer, et je ne pouvais y arriver qu'en les atteignant.
À plusieurs kilomètres de là, dans une autre voiture, le père d'Amy était en compagnie du shérif de Johnson County et d'un agent du FBI. Tous trois se dirigeaient vers la scène de la fusillade. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'espérer que la jeune fille de 13 ans survive à cet affrontement armé. Pendant que la fusillade se poursuivait, un des policiers de Johnson County se rapprocha de la voiture des suspects, comme se le rappelle Bill Gunn.
Un des policiers a couru de sa voiture vers celle des ravisseurs. La petite lui a alors demandé s'il était un agent de police et il lui a répondu que si. Elle s'est alors accrochée à lui.
L'agent remit la jeune fille effrayée aux mains d'un policier de l'État qui s'éloigna de la scène avec elle. Ils coururent sur la route où ils virent les renforts arriver. Après 44 heures de captivité, Amy McNeil, 13 ans, était enfin en sécurité. Le policier devait aviser les enquêteurs et transmettre la bonne nouvelle au père. L'agent spécial Rod Kicklighter était dans la voiture quand il reçut l'appel.
Il nous semblait qu'il s'était écoulé plusieurs heures avant qu'on reçoive finalement la confirmation qu'Amy était en sécurité. Je me rappelle que son père ne cessait de me saisir à bras-le-corps et de me supplier de lui dire comment elle allait. Quand on a su qu'elle était en sécurité, il était en extase, comme nous tous d'ailleurs.
Pendant qu'Amy se dirigeait vers la voiture dans laquelle se trouvait son père, l'échange de coups de feu avait cessé. Les deux tireurs avaient été blessés. Les policiers avaient toujours leurs armes pointées sur eux, ignorant si les suspects avaient encore des munitions. Puis, un troisième homme surgit de l'ombre. Lorsqu'il constata qu'il lui était impossible de s'enfuir, il se rendit. Dans la voiture des ravisseurs, les enquêteurs mirent les menottes à la jeune femme et à un quatrième homme qui était resté à l'intérieur pendant la fusillade. Les policiers annoncèrent à Amy que ses ravisseurs étaient maintenant tous sous bonne garde. Sur une autoroute déserte à 2 kilomètres de là, Amy courut bientôt jusqu'à la camionnette dans laquelle se trouvait son père. L'ex-agent spécial Clint Brown fut témoin des émouvantes retrouvailles entre ce père et sa fille.
Nous étions très touchés. On a tous des enfants, des filles. C'était donc très, très émouvant d'assister à ces retrouvailles. On était si heureux de la façon dont cette affaire s'était terminée qu'on participait à toutes leurs émotions et à leur joie.
Il n'y avait des blessés que parmi les ravisseurs. Deux d'entre eux étaient des repris de justice. Ils étaient sous l'effet des méthamphétamines au moment de la fusillade. On examina également la dame âgée. elle avait survécu à cette mésaventure avec un léger choc nerveux. On vérifia le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture des ravisseurs. Elle avait été volée à Dallas la veille. Les enquêteurs comprirent pourquoi les criminels s'étaient arrêtés à cet endroit précis.
On ne comprenait pas pourquoi ils s'étaient arrêtés devant cette maison en particulier, mais on a vu plus tard que c'était parce qu'ils étaient à court d'essence.
James Foote, 34 ans, celui qui avait appelé pour demander la rançon, avait déjà travaillé pour McNeil. C'était lui qui avait mis au point le plan de l'enlèvement d'Amy. Pour avoir utilisé une arme dans le but de commettre un crime, il fut jugé coupable d'enlèvement et de tentative de meurtre et condamné à la prison à vie. Michael Mills, âgé de 27 ans, qui avait fait les appels subséquents, fut également jugé coupable d'enlèvement et de tentative de meurtre et condamné à la prison à vie. Les autres ravisseurs, Daniel Necker et Thomas Barnes, tous deux âgés de 21 ans, furent aussi reconnus coupables des mêmes crimes et furent condamnés à vie. Quant à la jeune femme de 18 ans qui se trouvait avec eux, elle fut également accusée. Toutefois, elle n'avait rencontré James Foote que quelques jours plus tôt, avant qu'elle eût l'enlèvement. Elle fut terrifiée en voyant les hommes revenir avec la jeune fille de 13 ans. Elle était restée pour les empêcher de violer Amy. Plus tard, celle-ci confirma que la jeune femme l'avait protégée, comme nous le raconte Eddie Boggs, alors shérif de Johnson County.
À la demande d'Amy, elle n'a écopé que d'une probation de 10 ans. Cette complice ne savait trop ce dans quoi elle s'était embarquée quand elle s'était jointe au groupe. Il consommait déjà de la drogue depuis plusieurs jours quand elle était arrivée. Elle a tout simplement été mêlée à quelque chose dont elle ne pouvait pas se sortir.
6 mois plus tard, le 4 juillet 1985, Foote fut transféré du pénitencier fédéral à la prison de Johnson County pour y faire face à d'autres accusations. Les autorités avaient découvert que les armes utilisées lors de l'enlèvement avaient servi à un vol à Dallas. Foote fut également inculpé de la tentative d'enlèvement d'un enfant à Arlington quelques jours avant l'enlèvement d'Amy. Dehors, il faisait une chaleur torride et le gardien de prison accepta d'apporter un tuyau d'arrosage pour que les prisonniers puissent se rafraîchir un peu. Pendant son absence, Foote en profita pour escalader la clôture de 2,5 mètres. Il parvint ensuite à passer sous les barbelés. Quelques secondes plus tard, le ravisseur disparut dans un boisé avoisinant. Ce soir-là, le shérif de Johnson County dut annoncer à McNeil que le ravisseur de sa fille s'était évadé. Personne ne savait où il se trouvait. Des policiers resteraient devant la résidence des McNeil aussi longtemps que Foote serait en cavale. On craignait qu'il ne cherche à se venger. McNeil offrit alors une récompense à quiconque fournirait des informations permettant d'arrêter Foote de nouveau. Quelques jours plus tard, le shérif Boggs reçut un appel prometteur.
Le cousin de James Foote vivait près de Paris, au Texas. Il savait où Foote se trouvait. Il était entré en contact avec lui. Il y avait également des accusations contre ce cousin. Ce dernier était donc prêt à négocier avec nous.
Foote se cachait dans la maison de son cousin à Paris, soit à 270 km au nord-ouest de la prison. Les policiers de Johnson County se préparèrent à prendre d'assaut la maison à un seul étage. Ils s'attendaient à une autre confrontation armée. Comme promis, le cousin s'assura que Foote était dans la maison au moment où les policiers arrivèrent sur les lieux. Cette fois-ci, il n'y aurait pas de fusillade. Les policiers capturèrent Foote sans problème. Il fut retourné à la prison, où il restera pour le restant de ses jours. À Austin, la capitale du Texas, le sergent à la retraite John Dandy fut parmi ceux qui furent honorés suite à l'heureuse conclusion de l'affaire.
Aller ainsi à Austin pour parler au gouverneur et recevoir cet honneur n'était rien en comparaison avec la satisfaction que j'avais ressentie d'avoir sauvé la vie de cette jeune fille. Cela a réellement donné un sens à ma vie. Au cours de ma carrière de 36 ans au sein des forces policières, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée.
Parce que les autorités ont agi rapidement et n'ont jamais abandonné, Amy McNeil a pu retrouver sa famille et ses amis. Elle doit sa vie aux policiers et aux agents qui ont répondu à l'appel.